Merci Tiffaine et bon week-end. Invités et du chant breton avec Dénès Prigent et Eva Guyorel, l'un côté Gwerz pour un album source, l'autre côté collecte pour une histoire littéraire, culturelle et judiciaire de la Bretagne par ses complaintes.
La compagnie des poètes par Manu Farid.
Dénès Prigent, Eva Guyorel, bonjour et bienvenue à tous les deux. Eva Guyorel, je précise que vous êtes avec nous depuis France Bleu Normandie à Caen. Vous êtes historienne, maître de conférence à l'université Caen Normandie, auteur notamment d'une somme réalisée à partir de plus de 2000 chants des 16e au 18e siècle collectés en Bretagne. Chants mention complainte, c'est-à-dire, ou dit autrement, Gwerz, c'est-à-dire cette forme orale en vers, hein, toute particulière avec ses invariants stylistiques, ses motifs bien souvent empruntés aux faits divers, assassinats, infanticides, suicides, exécutions comprises, une forme dont vous faites source hein, pour une possible histoire culturelle et judiciaire et poétique, évidemment, de la Bretagne. La Gwerz, donc, et comme ça tombe bien, au centre de votre écriture, Dénès Prigent, et au centre de votre sixième album fraîchement paru sous le label Copbraise, titré « Milent », c'est-à-dire « Mille chemins », c'est-à-dire 13 titres, dont 12 en breton, des histoires d'eau, de pierre, d'herbe, de deuil, de crime, de froid noir, de mort blanche, d'écume, d'oiseaux, des contes, un tombeau et même une improvisation vocale finale en guise de vol d'aigle. Mille chemins pour un album qui raconterait 25 ans de composition, soit un chemin, le vôtre.
Mazat mamam la ridin me Achuir offer din me congé Achuir offer congé din me Avant d'azan saldar feste Congé d'yachuin aro im Agnos voquet ben bior di gwe Ag ben bior di gwe no
Vaent, Mon chemin, troisième titre de l'album Mille Ent, Dénès. Votre chemin et les mille qui le composent, hein, c'est l'objet de cet album que vous présentez comme à la fois une synthèse et probablement un aboutissement. Pourquoi maintenant? Pourquoi était-il temps de faire le point?
C'est vrai qu'après 25 ans ou 30, même 30 ans de parcours musical, c'est vrai que j'avais envie de... C'est un peu comme une personne qui marche sur un chemin. À certains moments, il fait une halte et puis il se retourne et il regarde le chemin qu'il a parcouru. Et cet album, voilà, un petit peu le reflet de, voilà, de cet état d'esprit-là. C'est vrai que j'ai commencé à cappella et puis... Donc après une dizaine d'années, j'ai voulu habiller ce chant. Et devant moi, ben, justement pour habiller ce chant nu, s'offraient 1000 chemins, 1000 possibilités. Et j'en ai emprunté un certain nombre. Et cet album est donc en allant vers l'électronique, tantôt vers le jazz, vers la musique classique, vers le hip-hop, le trip-hop, la jungle, voilà, et mais aussi les musiques du monde, bien sûr, parce que j'ai invité de nombreux musiciens d'autres musiques que la musique bretonne, et donc cet album a été pour moi, voilà, une sorte de page que je tourne, voilà, de synthèse, j'aime pas trop le mot, mais de synthèse, de résumé de tout ce que j'ai pu faire dans ces 30 années de chant.
Alors cet album-là, Dénès, fait suite à un album qui était un album acoustique. Hein. Cette fois, se pose sur votre voix Alors notamment parce que je vais pas pouvoir citer tout ce qu'on entend, mais du piano, ce qui est plutôt rare, mais aussi du violon, accordéon diatonique, bombarde, cornemuse écossaise, harpe, djembé même j'ai vu en percussion, quelques scratchs et séquences électroniques, hein, soit donc toutes ces rencontres que vous venez d'évoquer, hein, qui ont fait qui font votre répertoire. Ce répertoire donc fidèle à la tradition bretonne qui commence, alors le premier album c'est 93, hein, donc qui commence au début des années 90 par le chant a cappella, vous l'avez dit, hein, qui est, et qui va venir petit à petit, enfin qui petit à petit va s'habiller, hein, c'est l'image que vous reprenez, oui. Que vous utilisez souvent, qui va venir habiller ce chant nu par lequel vous avez commencé. Et cet habillage commence, alors il en reste quelques petites traces dans cet album-là, commence notamment par la rencontre avec la musique électro. Qu'est-ce que vous avez reconnu dans la structure même, hein, de la musique électro pour en faire, alors, du coup, je ne sais pas, peut-être un tissu pour vos chants, un tissu dont il subsiste ici quelques traces?
Les beatmakers et les gens qui travaillent dans la techno utilisent des instruments nouveaux, qu'on le veuille ou non, les machines électroniques, les platines, les sampleurs, tout ça sont des instruments nouveaux. Donc, en les adaptant au chant langue bretonne, à la guerre, au canadiscan notamment, on les bretonise, en fait. Il n'y a pas d'instrument breton par excellence, je pense que l'origine de la musique bretonne, c'est le chant a cappella. Et ensuite, bien sûr, il y a eu d'autres instruments, qui sont des instruments qui ont voulu reprendre la mélodie du chant. Mais ces instruments sont venus d'ailleurs. Ils n'ont pas été créés en Bretagne. Il y a eu, la guitare, par exemple, que l'on peut entendre dans n'importe quelle musique de Fesnoz, quelle formation de Fesnoz, qui nous est venue d'Espagne. Il y a la bombarde qui nous serait venue donc le chalumeau qui nous serait venu des croisades. Il y a, qui aurait été bien sûr transformé et adapté ensuite à la musique bretonne. Il y a l'accordéon. L'accordéon, lui, il nous est venu du musette. Il y a le bouzouki aussi qu'on joue, qu'on peut voir dans la musique bretonne, ou la flûte traversière irlandaise, le Yonan Pipe, la grande cornemuse écossaise. Donc il n'y a pas vraiment... tous ces instruments viennent d'ailleurs, en fait, et ont été adaptés à la musique bretonne, comme le cajón. De plus en plus, on voit aujourd'hui dans les groupes de Fesnoz des jeunes qui jouent du cajón parce que c'est une percussion qui s'adapte très bien au côté tribal, sans que ce soit péjoratif, de cette musique, côté très énergique de la danse bretonne. Donc ce sont des instruments qui, adaptés à la musique bretonne, deviennent bretons par excellence, et les machines en font partie. Voilà. Donc c'est vrai que là, on peut pas reconnaître vraiment du trip-hop ou du rap dans ce que l'on vient d'entendre ici, mais c'est des machines que James Iger, entre autres, à qui j'ai fait appel, a adapté à mon chant. Mais l'axe, c'est le chant. L'axe reste toujours le chant. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens, dans la chanson, par exemple, ils enregistrent d'abord la musique et le chant ensuite. Le chant vient se poser sur une trame musicale. Là, on procède toujours l'inverse. J'interprète a cappella le chant dans son art et demi, ou parfois mesuré ici, et c'est aux musiciens, aux instruments, quels qu'ils soient, de se poser sur le chant. Et surtout de ne pas le dénaturer, de le garder dans son essence. Autant dans l'émotion que dans l'énergie. Exactement, justement, comme un corps. Voilà, comme un grand couturier. Il faut que vraiment le corps soit sublimé par les instruments. Que le corps ne soit pas étouffé ou vampirisé ou recouvert ou disparaisse sous un amas de vêtements. Ouais.
Donc ça voudrait dire, qui dit corps, voudrait dire, j'imagine, hein, que certains vêtements ne lui vont pas, ou certains vêtements lui vont mieux que d'autres.
C'est de la haute couture, en fait, il n'y a pas de prêt-à-porter, en fait, voilà, c'est ça.
Je me demandais, par exemple, pour cet album en particulier, le piano vient se poser à plusieurs reprises, oui, sur votre voix, en l'occurrence le piano de Jan Tiersen. Qui est un choix qui ne vous est pas coutumier. Et non. Je me demandais justement si ce vêtement-là, si cette étoffe-là, résistait un peu au chant.
Oui, parce que, au prime abord, c'est vrai, quand j'ai composé les deux mélodies, entre autres, sur lesquelles j'envisageais d'y mettre du piano, je l'ai fait en pensant justement au piano. Donc je suis allé vraiment vers une gamme tempérée. Parce que le piano n'accepte pas ce qu'on appelle les notes bleues en breton, qui sont des notes entre les notes, ce qu'on appelle génériquement des quarts de ton, mais ça va au-delà de ça. On peut avoir des sixièmes, des septièmes, des huitièmes, des neuvièmes de ton, comme c'est le cas notamment dans Armaroquen, par exemple, un des chants qui est sur le disque. Donc là, je suis resté dans une gamme plus tempérée. Donc là, il a été plus facile, mais voilà, c'était prémédité au départ. Je savais que le piano, enfin, il y aurait du piano dessus, donc ça a été plus facile aussi à Jon Tiersen de poser son piano sur ce champ-là.
Ouais. Dans cet album-là, Dennis, il y a aussi, c'est aussi une petite exception de la poésie parlée. Alors on peut parler de cris aussi, hein, je pense au vol de l'aigle, oui. le dernier morceau, une sorte d'improvisation vocale, des contes, une complainte en français. Alors je sais que...
Non, je ne suis pas d'accord.
Je sais que c'est compliqué. Voilà, vous m'avez dit avant même qu'on commence que Eva Guerel parlait de complainte et...
Oui, sans créer de polémique, mais c'est vrai qu'autant je suis...
Alors je vais vous laisser expliquer.
Autant je suis d'accord sur le terme de chant. C'est vrai que la guerre n'est pas une chanson. Dans la mesure où la chanson aura tendance à parler d'état d'âme, elle sera plus individuelle, parlera de malheur d'une personne qui se plaint sur sa vie quotidienne, sur ses amours malheureux, sur autant donc ça, là on est enfin, la chanson elle est plus individuelle, plus personnelle. Autant la guerre, c'est vrai, c'est un chant dans la mesure où elle parle de thèmes universels comme des batailles, des guerres, des meurtres, des naufrages, donc des événements qui ont touché une communauté, une large communauté à une époque donnée, événements qui sont restés dans la mémoire collective et qui ont été transmis de génération en génération. Et donc là, on est dans le champ, on est dans l'universel, avec bien sûr le thème général qui est celui de la mort. Voilà.
Là, c'est vraiment. Mais Eva Guerel, Eva Guerel parle bien de chant, hein. C'est oui. Sur le terme de. Alors,
voilà, de complainte.
De complainte. De quoi parle-t-on, Eva Guerel, quand on parle de complainte?
Moi, je pense qu'on parle de la même chose, hein. C'est peut-être l'usage du terme qu'on n'utilise pas de la même manière, mais je suis tout à fait d'accord avec la définition qui est donnée.
Oui, parce que en fait, là, je me permets de.
Permettez-vous.
Voilà. Autant là, je pense que la guerre n'a pas de. C'est vrai qu'on a tendance toujours à vouloir traduire. Je pense qu'il y a des termes qui sont pas traductibles. Surtout en breton, on a toujours un peu ce sentiment. Pourrait avoir de la part de certains bretons ce sentiment d'infériorité de leur culture par rapport à la culture française, parce que c'est vrai que pendant longtemps, on nous en a fait honte. Mais c'est vrai que la guerre, c'est comme le fado. Le fado, on ne dira pas que c'est une complainte, on dira que c'est du fado. Et on pourrait dire que c'est une complainte aussi. Le blues, on pourrait dire que c'est une complainte aussi. Mais non, on dira que c'est le blues. Mais la guerre, on le traduit par complainte. Pour moi, la guerre, c'est la guerre. La guerre se penche à une dimension sacrée, une dimension beaucoup plus large que la complainte. Voilà.
Alors, on écoute ce que ça donne lorsque vous composez une guerre.
Là, je viens,
Rize galon manawer jay Rize galon ya manawer jay Po kleve de kere pepo Ve do yudal anaver Me do yuda lana versa. Me dana vel ruzo yuda. Akaranan kuo.
La mort blanche, extrait de votre album, Dennis, où on l'apprend d'ailleurs que l'enfer est froid.
Chez les Celtes, oui, chez les Bretons.
Pour les Celtes.
En hivernier, nous, on dit, oui.
Cette Guerz-là, hein, puisque c'en est une, vous dites que c'est celle de l'album, en tout cas, qui respecte le mieux la forme ancestrale par le texte
oui.
Et par la mélodie.
Oui.
Qu'est-ce que ça voudrait dire?
Déjà, là, en octosyllabe. Parfois, les rimes sont ternaires aussi, comme dans les plus anciennes Guerz, comme par exemple, la peste des Liens, qu'on peut lire aussi dans le Bazaz Breiz. Et dans la forme musicale aussi. Il y a ce qu'on appelle des formes, des notes lamentatives. Moi, je les appelle des notes lamentatives plutôt que des notes des quarts de ton, qui sont un petit peu, comme je disais tout à l'heure, un terme un peu générique. C'est-à-dire, ce sont des notes entre les notes. On les entend bien, là. Notamment quand la cornemuse arrive, on a l'impression que ça sonne faux. Et en fait, ça sonne pas faux, ça sonne juste, en fait. Le but du chant breton, c'est pas sonner juste ou sonner vrai, en fait. Et là, le but, c'est chanter vrai. Parce que c'est vrai que si je fais la même mélodie, dans une gamme tempérée. Là, on sera justement dans la complainte, je pense. Là, on sera dans la dans quelque chose de plus accessible à nos oreilles conditionnées. C'est-à-dire que ces notes entre les notes, justement, sont comme des pleurs que l'on rajoute dans la mélodie. D'ailleurs, quand on entend des gens pleurer, les pleureuses, quand elles pleurent, ou les gens quand on pleure, nous-mêmes, on pleure des notes bleues. Mais voilà, je vais pas le dire, mais voilà, je vais pas le faire, mais les enfants, quand ils pingent, comme on dit en breton, voilà, voilà. Et donc, ce sont des notes qu'on rajoute, comme ça, dans la mélodie, et qui apportent une dramaturgie sans commune mesure avec, voilà, si on compare à cette même mélodie chantée dans la gamme du piano, dans la gamme classique, qui est, je pense, une gamme qui est très, très rétrécissante, très, très, appauvri quelque part, parce qu'il faut savoir. Et alors, c'est vrai que de ce fait, on a tendance à dire que c'est vrai que la musique bretonne a un côté, de par ces notes-là, un côté oriental. Mais il faut savoir qu'en Europe, dans toute l'Europe à l'époque du Moyen Âge, les gens chantaient comme ça. Donc, on chantait de cette façon-là, et notamment les chants religieux. C'est pour ça qu'une personne comme Marc Pérez, notamment, nous dit que le chant grégorien, tel qu'on l'entend aujourd'hui, est une forme complètement nouvelle, en fait. C'est une forme du 19e siècle, en fait. C'est une forme, voilà, on le chante dans la gamme tempérée, mais l'origine des chants religieux, des chants d'église, était justement, voilà, on les interprétait justement avec toutes ces notes entre les notes. Et lui, notamment, il a monté une formation qui s'appelle Organum, où il respecte tous ces vieux écarts, ces anciens écarts. Et donc, pour ce faire, il a pas fait appel à des chanteurs d'église, mais à des chanteurs de tradition ou de culture où on garde encore ces notes entre les notes. Et c'est vrai que ça n'a pas la même force émotionnelle.
Ces notes entre les notes, est-ce qu'elles sont difficiles à chercher? Parce que j'imagine qu'il y a eu un apprentissage,
oui.
Parce que vous en êtes passé par là aussi. Parce que, bon, faudrait peut-être rappeler aussi que vous avez été essentiellement élevé en français. Hein,
J'ai baigné dans la culture bretonne tout jeune.
Par votre grand-mère?
Par ma grand-mère. Et je suis originaire de Santec où 95% de la population parlait breton. Donc c'était vraiment dans mon... Voilà, tout enfant, j'ai entendu cette langue tout le temps, quoi, toujours. Ouais.
Donc ouais. Vous avez également entendu ces notes-là. Hein.
Oui,
il n'a pas fallu travailler cette voix-là, travailler ces notes-là.
Oui, non, parce qu'il a fallu d'abord en prendre conscience, et puis ensuite faire la part des choses, parce que très souvent on dit, les anciens, parce qu'il y a un petit peu un extrême en Bretagne... À partir du moment où un ancien chante, on dira un ancien chante une guerre, c'est comme ça qu'il faut la chanter. Et alors on peut confondre un quart de ton avec un problème de voix que la personne peut avoir parce qu'il a, je sais pas, il a un dentier ou parce que sa voix n'a plus la tenue qu'il avait quand il était jeune. Donc il s'entend pas bien non plus, il a une perte d'audition, donc il a tendance à fausser. Donc ça, il faut faire cette distinction entre la note, vraiment entre les notes, cette fameuse note lamentative, et comment ces notes, comme très souvent les guerres nous ont été transmises en tout cas par les générations précédentes, et ces notes donc qui viennent du vieillissement, de la voix ou du chanteur qui nous les transmet. Et ensuite, il faut se déconditionner. Une fois qu'on a pris conscience, il faut les oublier, se déconditionner de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, puisque finalement tout ce qu'on entend à la radio, on vit vraiment dans la société de l'image, mais aussi dans la société de la gamme tempérée. On n'entend que des notes, c'est comme une gamme finalement assez rétrécie de la musique.
Les trois voix fameuses qu'on va entendre. Tout de suite, alors se sont un peu professionnalisés aussi, mais en même temps, n'y ont rien perdu, j'imagine, on les écoute.
J'en ai dit des roses, regarde celle pour avoir un merveilleux angle de génie.
Eva Guyorel, je vais vous laisser nous dire ce qu'on entend.
Oui, on entend les sœurs Goadec, donc qui viennent de Treffrin en Centre-Bretagne, et ce sont trois chanteuses connues. Alors d'abord parce que c'était d'excellentes chanteuses, à la fois de Gwers comme ici, donc de cornes à discante, donc de chants à danser. Et elles ont eu aussi une forme de célébrité parce qu'elles ont joué avec des personnes et des musiciens qui ont eu leur heure de gloire et qui sont toujours connus aujourd'hui. Hein. Je pense à Alan Sivel par exemple. Hein, les sœurs Goadec ont chanté avec lui. Et elles chantent ici une très belle complainte, une très belle guerze qui raconte l'histoire de Jeanne des Garous, une jeune fille qui décide de se tuer, de se suicider, plutôt que d'être livrée aux soldats qui l'enlèvent le jour de son mariage. Et c'est une guerze qui est très ancienne, puisque on peut la situer dans le contexte de ce qu'on appelle la guerre de la Ligue, en Bretagne, donc on est dans la dernière décennie du XVIe siècle, et c'est une guerre civile en fait qui a agité la Bretagne, mais aussi toute la France, à l'époque où Henri IV est devenu roi de France, entre ceux qui défendaient le roi et le parti adverse qui avait décidé qu'il ne fallait pas avoir de roi protestant sur le trône. Donc ça a été toute une grande guerre, et il y a eu beaucoup de destructions de bandes armées qui se sont déplacées en Bretagne, dont la bande d'un nommé Le Tremblay, qu'on connaît par des documents écrits, et qui est l'homme qui enlève cette jeune femme dans la chanson. Voilà, donc on a ici une histoire qui remonte à 4 siècles et qui s'est transmise avant tout dans l'oralité, puisqu'on ne connaît pas de traces écrites de cette chanson, et ces guerzios anciennes, on n'avait pas de documents écrits en langue bretonne, et donc c'est dans le contexte de la transmission de génération en génération dans les familles et dans le voisinage que ces chansons ont pu arriver jusqu'à nous.
Les sœurs Goadec, Dénès, c'est votre épiphanie, dites-vous. Je crois que vous les avez entendues très jeune.
Ah oui, ce sont un petit peu mes grand-mères de Gwers, mes grand-mères de Conadiscon, mes grand-mères spirituelles quelque part. C'est vrai que j'ai eu deux moments importants dans ma barzma zambues, comme on dit en breton, dans mon morceau de vie. C'était la première, c'était la première fois que j'ai lu le Barzaz Breiz.
Peut-être rappeler ce que c'est.
Le Barzaz Breiz, c'est un recueil de chants poétiques. Voilà, recueil de chants de un noble de Quimperlé qui a collecté dans toute la Bretagne des guerres, entre autres.
Début du 19e siècle. Du 19e siècle.
Et c'est un chant qui a eu une aura dans toute l'Europe, puisqu'il a été traduit dans pratiquement toutes les langues d'Europe, qui a eu un succès phénoménal, et même auprès de gens comme Georges Sand, qui face à ce livre a été absolument subjugué. Elle parlait des diamants du Barzaz Breiz. Elle disait aux hommes de plume de France de baisser leur chapeau dès qu'ils verraient un Breton. Donc elle était très très élogieuse, voilà, et à juste titre, sur ce recueil, donc de Gwers principalement. Donc c'est vrai que moi, voilà, j'ai eu mon premier sentiment d'épiphanie, ça a été justement en lisant la guerre de Gwenrland, qui figure dans ce recueil. C'est la deuxième d'ailleurs dans ce recueil. Et là, j'ai eu comme une sorte de, c'est comme si mes cellules qui étaient en sommeil s'étaient réveillées d'un coup, et comme si j'avais été submergé par une vague émotionnelle qui a été très déterminante très importante pour la suite. Et la seconde fois, donc, ça a été l'écoute des sœurs Goadec, tout jeune. Voilà, Roland Kerion, je les ai entendus sur scène, je les ai vus, puisque moi j'avais eu l'occasion de les entendre sur disque à la maison, et là je les ai vus sur scène chanter. Elles sont montées avec une grande humilité, une grande fierté à la fois, tout sourire sur la scène, et je garde, je devais avoir moins 10-12 ans, et je garde ce moment, fortement en souvenir. Donc là, ça, je pense que c'est ce qui a été déterminant pour moi, pour passer à l'acte ensuite.
Vous avez composé d'ailleurs aussi un texte pour elle. L'ensemble des titres de l'album d'Aînès est traduit en français dans le livret qui l'accompagne, sauf bien sûr l'improvisation vocale autour du vol de l'aigle, et sauf Aller lui dire dans son rêve, hein, qui est un court poème adressé à votre compagne disparue. On en écoute un extrait. Je dis non traduit, ça ne veut pas dire intraduisible, hein, parce qu'on en trouve la traduction dans un recueil hein, qui paraît dans le même temps, un recueil de vos textes en vers. Alors pardonnez-moi, je vais vous demander également de la prononciation.
Le recueil s'appelle Quand et il est sorti chez Skolvreis, qui est la plus ancienne maison d'édition de Bretagne.
Alors, qui sont là, pour le coup, des textes privés de chants, d'une certaine façon, mais dans lequel dans ce recueil, on retrouve notamment des chants qui se trouvent dans l'album. Sur cette question de la traduction d'Aînès, vous vous expliquez un petit peu dans le livret, hein, sur la difficulté syntaxique à traduire le breton et sur la difficulté sémantique surtout à traduire. Alors vous utilisez notamment l'exemple du puits oui. En breton qui n'est pas le puits en français.
C'est vrai qu'il y a un certain nombre de termes comme ça qui sont très difficiles à traduire en langue française, comme le puits par exemple, c'est vrai, ou qui sont tout de suite connotés et qui ont tendance à folkloriser un petit peu le chant ou qui ont tendance à désacraliser aussi le texte initial. Il y a la campagne aussi, des termes comme ça. Et le puits en fait partie. C'est vrai que le harpuse en breton, harpuse, quand on traduira par l'harpuse, par le puits, tout de suite, en français, on pense à la petite bergère avec son petit seau, guillerette qui va puiser l'eau, qui va du moulin, qui va de sa fermette au puits, voilà. Et donc on a une vision très rapide, on a très rapidement une vision d'épinal un petit peu. Alors que le puits, c'est vrai qu'en breton, enfin de ce que moi j'ai pu en connaître d'après les anciens, le puits c'est une sorte de trait d'union entre tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est terrestre au fond de la terre et tout ce qui est céleste au-dessus, quoi, au-dessus dans l'espace, dans l'air. Voilà, c'est un petit peu comme l'arbre aussi. C'est vrai d'ailleurs. L'arbre est peut-être moins connoté dans sa traduction en français, mais voilà, il y a donc c'est vrai que là où un terme peut avoir une dimension complètement sacrée, complètement universelle en breton, il est réduit dans sa traduction en français par quelque chose de presque désuet et folklorisant.
Eva Guerel, qu'est-ce qui rend syntaxiquement la traduction si difficile hein?
Je pense que c'est une question qui pourrait se poser pour toutes les langues, alors là, qui dépasse mes compétences d'historienne. Après, peut-être, si je peux amener un commentaire hein, sur tout ce qu'on a entendu de la part de Aînès Prigent. On sent à la fois chez lui, dans ce qu'il dit, et puis dans son écriture, un enracinement très fort et qui fait la force hein, de ses chansons et qui explique aussi qu'on ait ces très beaux textes. Peut-être que s'il était né ailleurs en France, il trouverait d'autres traditions très belles, très profondes et d'autres langues peut-être aussi tout aussi riches. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les textes de Aînès Prigent, c'est qu'on ressent vraiment ce qui fait l'essence de la Guerze et de l'écriture de ces formes poétiques anciennes en breton. C'est pas facile aujourd'hui d'écrire de nouveaux textes inspirés de la tradition. Il y a peu de gens qui le font et certaines personnes qui le font font des textes qui sont grammaticalement tout à fait justes, mais qui ne sonnent pas beaux à l'oreille, sans qu'on sache forcément pourquoi. Et en fait, ce qui est très important dans l'écriture de ces textes, je crois, c'est les images, c'est la beauté des mots, des expressions, et tout un langage poétique que l'on a retrouvé à travers toutes ces chansons qui ont traversé les siècles, et que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les textes que compose Dénès Prigent. Et alors, peu importe qu'il y ait de la musique pop, électro, du piano, de la harpe ou une voix a cappella, voilà, l'essence même, elle est là, dans cette poésie des mots qu'il réussit extrêmement bien à rendre.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Dans cet album d'Aînès dont on parle à l'instant, donc il y a un titre, un chant en français. Est-ce que ça vous demande à vous une autre voix, une autre technique?
Là, en l'occurrence, non, puisque j'ai composé un air de Gwers pour l'interpréter.
Pour vous aider.
J'ai triché. Oui, donc du coup, ça m'a aidé à poser le chant en langue française sur la mélodie, puisque la mélodie est une mélodie que j'ai composée dans le style traditionnel de la Gwers.
Quand vous dites là non, ça veut dire que ça peut être une contrainte. Ça veut dire que chanter en français, les rares fois.
J'ai chanté Jacques Brel quand j'étais jeune. J'ai même gagné des Radio Crochets en chantant Jacques Brel, qui est pour moi un chanteur extraordinaire. C'est vraiment pour moi l'incarnation du chanteur, poète et. Voilà, là, lui aussi, je pense qu'il touche à l'universel. Là, on dépasse la chanson. Même s'il est dans la chanson, il dépasse la chanson. Il est vraiment dans le chant, lui aussi.
Puisque vous parlez justement de la présence scénique de Brel, je me demandais aussi ce que la Gwerth demandait comme corps. Parce qu'il faut peut-être rappeler que la Gwerth, ce sont normalement des chants à entendre et non pas des chants à danser.
Oui, ce sont des chants à raconter, à entendre, à écouter. Et aussi, ce sont des chants qui étaient interprétés principalement dans le cadre de veillées, je pense, à l'origine. On dit aussi qu'il y avait des seigneurs qui avaient leur propre barde, donc qui racontaient les faits divers, les faits qui avaient pu arriver à au seigneur en question. Voilà, ça serait à l'origine de la Gwerth, mais c'est un chant avant tout à écouter, c'est pas un chant à danser, non. Là, autant quand on est, parce que moi je fais du canadiscan aussi, lorsque je fais du chant à danser, c'est vrai
qui
que
donc
là,
l'autre aspect,
l'autre grand style de chant en Basse-Bretagne, c'est vrai que là, les chanteurs sont plus effacés sur scène. Là, c'est vraiment la priorité aux danseurs et à la danse. Un peu comme dans les rêves, les DJ, voilà, ils font leur, ils lancent les boucles, ils lancent la musique, ils lancent le rythme. Mais la priorité, c'est comme ils sont pas non plus sacralisés sur scène comme peuvent l'être un chanteur de Gwerth en concert. Ils sont plus comme presque comme des outils pour amener les gens à la danse et à la transe aussi, puisque le canadiscan est utilise dans son principe des boucles, ce qu'on appelle des dérivilles. Il y a toute une technique vocale propre au canadiscan. Qui permettent justement d'amener à la fois le danseur à la transe et le chanteur lui-même aussi à la transe. Si bien que parfois on a même l'impression que quand il y a une sorte d'osmose comme ça entre le public et les chanteurs sur scène, qu'on a cette impression que le temps s'arrête, quoi, comme si on était aspiré dans une sorte de spirale sans fin.
So deit a gräsulander schon. So deit a schon da gräsulander. In kischen vores kanis kan. In kischen vores kanis kan. Panamans kolvan da vjelti var keu, keu esan tan war har zeu. Kav esan tan war har zeu.
Gwert, toujours versant source, là, vraiment la voix de Marie-Joseph Bertrand, Madame Bertrand, hein, l'une des figures de la Gwert disparue en 70, et qui interprète là, alors, on dit, alors, soit
Skolvan, ou Yannick Skolvan, il y a différents.
Ou en enlevant levé.
Oui, il y a d'autres titres encore, voilà. Il y a encore plusieurs.
Parce qu'il y a eu plusieurs versions. Hein,
Madame
donc,
Bertrand, qui est un petit peu le Jacques Brel de la Gwerz, hein. C'est vrai qu'elle est vraiment la plus grande, pour moi, c'est la plus grande, et elle est considérée en Basse-Bretagne, en tout cas par les chanteurs, comme la plus grande chanteuse de Gwerz, enregistrée jusqu'à ce jour.
Et donc là, ce qu'elle chante, hein, c'est donc l'histoire de cet homme qui assassina un prêtre, brûla des églises, tortura ses sœurs avant de demander pardon à sa mère, bien sûr. Donc c'est un choix que vous avez suggéré, mais qui, j'imagine, évoque aussi quelque chose pour vous, Eva Guyorel. En tout cas,
oui,
cette Gwerz là.
Tout à fait, hein, c'est à la fois une Gwerz très célèbre et une interprétation très célèbre de cette Gwerz. Alors quand on dit il y a plusieurs versions, il y a plusieurs titres, il faut bien voir que ce sont des chansons qui ont circulé oralement. Et donc lors de leur circulation, eh bien les gens adaptent un petit peu, modifient, voilà, ce qui fait qu'il y a autant de versions qu'il y a de chanteurs que l'on a pu rencontrer et enregistrer. Et c'est ce qui explique aussi la richesse et l'intérêt de ces chansons, qu'on ait plusieurs versions. Et en l'occurrence, cette histoire, elle a fait l'objet d'une étude assez connue d'un ethnologue qui s'appelle Donatien Laurent, qui a travaillé au Centre de recherche bretonne et celtique de l'Université de Brest.
Que vous évoquez beaucoup dans vos travaux.
Oui, tout à fait, parce qu'il a été quelqu'un de très influent dans les recherches autour du lien entre ethnologie, histoire et Gwerz. Et en fait, cette chanson, on a pu la mettre en lien, alors même avant lui, hein, déjà, La Ville Marquée, l'auteur du Barzaz Braise avait fait ce lien, mais on a pu faire un lien entre cette chanson telle qu'elle a été recueillie au 19e, 20e siècle en Bretagne, et un manuscrit écrit en langue galloise, donc au Pays de Galles, qui date du XIIIe siècle, et dans lequel on retrouve quasiment mot à mot plusieurs couplets qui reprennent exactement le même récit. Ce qui montre qu'il y a eu des relations évidemment culturelles entre ces deux espaces, hein, puisque le breton et le gallois, ça fait partie de la même branche linguistique, hein, ce sont toutes les deux des langues celtiques. Et il y a eu donc circulation de ces thèmes depuis très longtemps, puisqu'on a une attestation de cette histoire de Skolvan qui remonte au XIIIe siècle, peut-être même que c'est plus ancien, c'est en tout cas la première attestation écrite que l'on a de ce document. Et en cela, c'est évidemment une Gwerz extrêmement emblématique.
Alors comment une historienne, regarde cette source-là, hein, sur laquelle vous avez longuement travaillé, vous en avez même fait votre thèse, hein, qui est donc la Gwerz, cette source sans auteur, alors parfois avec des dates hésitantes, et puis c'est, évidemment ce sont des chants qui se transmettent oralement, donc qui bougent, hein, qui sont mobiles, qui sont parfois commentés, surcommentés, et donc transformés, sans trace écrite, et puis surtout c'est une source qui relève, j'imagine, de l'interprétation, même si ça a toutes les apparences de la vraisemblance. Comment un historien regarde, soupèse, évalue cette source-là?
Alors d'abord, il faut peut-être dire que ce n'est pas du tout une évidence, hein, pour des historiens de travailler sur des sources issues de l'oralité. Hein. La discipline historique s'est fondée comme une discipline basée sur des preuves écrites. Donc finalement, c'est à l'opposé, hein, de ces documents. Moi, ce qui m'a intéressé, alors j'étais formée en histoire, mais j'ai aussi été formée en ethnologie, et ça aide évidemment, et en langue celtique. J'étais intéressée à réfléchir à la façon dont des sources issues de l'oralité peuvent venir compléter les sources écrites que l'on connaît déjà sur la période d'Ancien Régime, alors 15e, 16e, 17e, 18e siècle, puisque c'est essentiellement autour de cette période que l'on peut dater beaucoup de Gwerzyu, en tout cas celles qui se rapportent à des faits historiques, parce que ces chansons, hein, très souvent, enfin pour beaucoup d'entre elles, se sont basées sur des faits divers ou des choses qui se sont réellement passées et qui ont été mises en chanson. Alors il y a des auteurs, forcément, simplement on ne les connaît pas, hein, et il y a surtout une transmission, hein, qui fait que finalement il y a une appropriation plus collective de ces récits par des communautés qui ont transmis, écouté, commenter ces chansons. Et donc en fait on peut faire des liens entre ces chansons recueillies au 19e et 20e siècle, certaines encore entendues aujourd'hui, et des archives écrites, en particulier des archives judiciaires, des procédures criminelles, qui racontent finalement soit les mêmes histoires, soit des histoires qui racontent la même chose. Et ce qui est intéressant aussi pour l'historien, c'est qu'à travers ces chansons, alors non seulement on a des éléments sur la justice, sur les crimes, mais ce sont des chansons très longues, plusieurs dizaines de couplets. Hein. Certaines guerres durent facilement 15-20 minutes hein, si on les écoute en entier, hein, ce qu'on fait rarement aujourd'hui d'ailleurs, malheureusement. Et ces chansons, pour donner l'apparence de la crédibilité, parce qu'elles sont, ce sont des chansons qui ont la volonté de raconter une histoire vraie, et bien pour donner cette apparence de crédibilité, elles vont proposer toute une série de détails extrêmement précis sur la vie quotidienne, sur les hiérarchies sociales, sur les comportements religieux et toutes sortes d'éléments.
Sur les vêtements, beaucoup.
Sur les vêtements, tout à fait, sur la culture matérielle. Et toutes sortes d'éléments qui, finalement, sont parfaitement crédibles dans le contexte de l'Ancien Régime, d'après ce que l'on sait de cette période, d'après les documents écrits. Donc c'est un va-et-vient, finalement, entre l'oral et l'écrit, qui permet, au final, de documenter mieux connaître cette période, en particulier parce que les chansons racontent des faits ou des comportements qui laissent peu ou qui ne laissent pas de traces dans l'écrit.
Elle raconte, c'est Gwerth, plutôt des perceptions des faits, j'imagine, hein, que des faits.
Au départ, ce sont souvent des faits réels que l'on peut documenter, mais évidemment, c'est une présentation littéraire, donc avec une partie fictionnelle dans ces chansons. Mais finalement, cette partie littéraire et fictionnelle, on la trouve exactement de la même manière dans les archives écrites de l'historien. Lorsqu'on prend un procès, par exemple, il y a des témoins qui déposent ce qu'ils ont vu, et ils racontent aussi, à leur manière, une réalité. Donc finalement, hein, c'est comme un repas de famille où on a la grand-mère et le petit-fils qui sont présents. Le lendemain, ils vont raconter ce repas. L'un s'est beaucoup amusé, l'autre s'est beaucoup ennuyé. Ils vont raconter deux manières différentes d'une même réalité. Deux regards différents, mais qui finalement se basent sur des faits.
Alors, ce qui est évidemment de par nature, hein, ce que vous dites, c'est-à-dire que ce sont des sources à caractère littéraire, qu'elles ont des exigences littéraires, des exigences poétiques même, qu'elles sont destinées à un public, à un auditoire, enfin qu'elles l'étaient, qu'elles le sont toujours d'ailleurs, et qu'il s'agit, j'imagine aussi, de convaincre cet auditoire, Eva Guerel. Par où est-ce que ça passe d'un point de vue de la construction poétique, justement, ou des invariants poétiques, que justement cette exigence à convaincre l'auditoire?
Pour convaincre l'auditoire, il faut tout d'abord présenter un récit qui paraît crédible, qui paraît vrai, ou dont on pense qu'il a pu réellement se passer. Ça, c'est très important. Hein. Et on a des commentaires recueillis hein, auprès de chanteurs qui expliquent que, voilà, si la chanson était mal chantée, sous-entendu hein, qu'elle n'était pas chantée comme ça s'était passé, on pouvait, des gens de l'auditoire pouvaient intervenir pour dire « Ah non, ça s'est pas passé comme ça ». Il y a toute une série de commentaires en prose aussi qui accompagnent ces chansons et qui sont destinés à les expliquer mieux. Et par ailleurs, en ce qui concerne la structure, il y a toute une série de motifs poétiques que l'on attend et qui viennent agrémenter ces chansons. Par exemple, hein, les fins et les débuts hein, des chansons répondent souvent à des schémas assez typifiés. Hein, on a des débuts qui reviennent souvent et des fins assez stéréotypées qui reviennent aussi. En fait, finalement, il y a un stock de motifs poétiques que l'on peut réutiliser et qui peuvent donner des couleurs différentes aux chansons selon ce que l'on souhaite faire. Une même chanson, voilà un exemple d'une chanson d'un duel, par exemple, entre deux jeunes gens qui se disputent l'amour d'une jeune femme. À la fin de la chanson, eh bien, il y a deux dénouements possibles. Hein. Soit le fils de paysan, eh bien, tue son adversaire noble, soit c'est l'inverse. Voilà. Et selon les versions que l'on a recueillies dans l'oralité, on peut avoir l'un ou l'autre. Et selon ce que l'on choisit, eh bien, ça donne une couleur différente. Et ce faisant, évidemment, la dimension poétique fait que l'on peut s'éloigner un peu, beaucoup, de la réalité historique. Puisque, évidemment, en transformant les chansons, en particulier pour leur donner une fin plus juste en fonction d'une certaine morale hein, qui serait attendue. Par exemple, hein, si c'est le méchant noble hein, qui va tuer le jeune paysan, eh bien peut-être hein, que les communautés qui vont transmettre et chanter ce chant vont préférer modifier la fin pour qu'elle réponde plus à une forme d'attente de justice à travers la chanson.
Denès, vous aussi, vous avez modifié la fin d'une Gwerth dans l'album. Hein.
On peut dire que c'était à la fois l'air d'un air de Gwerth et les paroles sont des paroles d'une complainte, donc très connue, hein, qui qui a pour titre l'infanticide. Et c'est vrai que la fin n'est pas traditionnelle. Justement, je lui donnais un côté fantastique comme on peut avoir dans les guerres. Là où dans la complainte, le texte original, la femme, la jeune fille, pour avoir noyé son nouveau-né dans la rivière, elle est brûlée, elle est châtiée, donc elle est brûlée et elle meurt brûlée sur le bûcher. Et dans ma recomposition des deux derniers vers, donc je dis que l'enfant est retrouvé sur la rive avec un ange à son côté. Donc là, il y a le côté fantastique du chanteur de Guerz qui pointe son nez.
Alors, vous parlez d'infanticide. Eva Guerel, il y a beaucoup question de crimes violents dans la Guerz. Il y a question aussi de suicide, il y a question d'exécution, et en fait, une espèce de relevé aussi de faits divers. Alors, il n'y a pas que ça dans la Guerz, mais il en est aussi question. Qu'est-ce que cette persistance-là raconte, au fond ?
Moi, ce qui m'interroge, c'est finalement comment, au fil des générations, au fil des siècles, on a pu continuer à transmettre ces histoires, alors que finalement le fait divers initial et son contexte ont pu être oubliés. On parlait tout à l'heure de la chanson de Jean-Eddy Garrou, ce qui s'est passé dans la dernière décennie du XVIe siècle. Ce contexte de guerre civile, tous les chanteurs aujourd'hui n'en ont plus conscience. Par contre, cette chanson, pourquoi est-ce qu'elle garde son sens? Pourquoi est-ce qu'elle garde son actualité? C'est parce qu'elle raconte un fait divers intemporel. Elle raconte des choses qui peuvent parler à toutes les générations, en particulier aux femmes. La question de la préservation de la femme par rapport aux violences de l'homme, la question de l'honneur de la femme, ce sont des choses qui peuvent parler à tout le monde. Et je pense que ça, c'est extrêmement important pour continuer à transmettre ces chansons. Il faut qu'elles gardent une actualité, il faut qu'elles gardent un sens pour les gens qui la transmettent et qui l'écoutent.
C'est ce que fait par ailleurs Denès, parce que quand vous composez une Guerz, en fait, vous allez faire ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire non pas reprendre des faits divers de l'époque, mais les ajuster.
Oui, mais je trahis un petit peu, parce que normalement, c'est un petit peu dans l'évolution peut-être de la Guerz aussi, mais c'est vrai que normalement, les auteurs de ces chants étaient contemporains à l'événement qu'ils racontaient. Et c'est vrai que moi j'ai composé une guerre sur Kiev, la guerre Kiev, sur la grande famine de 1932. Donc c'est vrai que moi je l'ai pas vécu en tant que tel, mais c'est vrai que c'est un événement. Un jour j'ai vu un reportage sur Arte notamment qui m'a tellement marqué que il fallait que je ressorte cette émotion et elle est passée par le prisme de la guerre. De même pour une guerre que j'ai fait sur la pollution causée par une usine à Copșamica en Roumanie. Donc là aussi c'est un événement qui m'avait beaucoup marqué. Donc là, je suis pas tout à fait dans la tradition où peut-être je la réinvente un petit peu, puisque je ne vis pas l'événement en tant que tel, alors que dans la guerre, normalement, ceux qui écrivaient sur tel ou tel événement tragique, très souvent étaient proches de cet événement. Vous l'avez même vécu.
Alors, ce sont des événements, pardon, oui, Eva Guerel.
Oui, il faut bien voir que ces chansons ont été composées, se sont transmises à une époque où on n'avait pas tous les moyens de communication et les médias que l'on a actuellement. Il y avait un taux d'alphabétisation beaucoup moins élevé aussi en Bretagne, évidemment, que ce qu'on connaît, et puis aussi que d'autres régions de France. Et donc, à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'écrits, faire des chansons, c'était aussi un moyen de transmettre les nouvelles. C'était le journal d'avant le journal, quelque part. L'oralité permettait de faire connaître des faits locaux, des choses qui s'étaient passées à un très grand nombre de personnes.
C'était la seule fonction de ces récits de crimes, hein, parce que je me disais, au fond, ce qui frappe aussi, c'est que ces récits peuvent être parfois d'une grande violence et effectivement parler de faits tout à fait tragiques. Et en même temps, il n'y a ni question de débauche, ni question d'ivresse, comme on peut le chanter aux mêmes époques ailleurs en France. Ça n'est pas le cas dans une Guerz. Est-ce que ça dirait quelque chose au fond de la fonction du crime dans ces complaintes-là? Alors, pardon pour le mot complainte. Est-ce qu'il s'agit de rétablir l'ordre? Est-ce que ce sont quand même aussi des chants d'ordre?
Oui, alors il y a une fonction morale. Après, moi, j'aurais tendance à minimiser plus la distinction entre le répertoire en langue bretonne et le répertoire dans d'autres langues. Il y a aussi des complaintes en français où il y a des éléments mystérieux, où il y a des notes entre les notes. Donc il y a aussi tout un répertoire très riche. Il y a pas que des chansons de débauche non plus dans les complaintes en français.
C'est pas ce que j'ai dit. qu'on en trouvait peut-être.
On en trouve, mais on en trouve aussi en breton, simplement peut-être pas dans les mêmes genres. C'est-à-dire que la guerre, ce n'est pas le seul genre de chansons que l'on chante aussi en breton. Il y a des chansons d'amour, ce qu'on appelle les songs new, hein, des chansons. Voilà, qui sont des genres différents, des chansons de métier, des chansons, toutes sortes de chansons, des chansons à boire, évidemment, il y en a aussi. Hein. Simplement, c'est un autre type de répertoire, un répertoire qui n'a pas vocation à raconter des histoires vraies ou prétendues vraies comme la Guerz, et qui n'a pas cette espèce de gravité, ce sens tragique, hein, que l'on trouve effectivement dans les Guerziou, et qui font que, eh bien, voilà, on n'a pas de débauche, on n'a pas de trivialité finalement dans ces complaintes.
Voilà. La Guerz, je pense aussi à cette fonction que les autres chants n'ont pas. C'est pour ça qu'elle reste plus dans le temps. Si elle a cette fonction de mémoire, elle garde en mémoire un événement qui a touché à un certain moment, à une certaine époque, le peuple breton, et qui a touché une communauté, une large communauté. Elle le garde en mémoire pour plusieurs générations à venir. Voilà. C'est pour ça qu'elles sont transmises aussi, comme une sorte de dommage aussi, aux victimes ou à des gens qui ont pu être tués dans une bataille, qui ont pu être victimes d'un crime, etc. Ouais.
Alors justement, à propos de crimes, Eva Guerel, est-ce que c'est... Guerziou nous raconte aussi, au fond, la perception du criminel, hein, ou du condamné.
On a effectivement des éléments... plus de psychologie, pourrait-on dire, autour du criminel, de la victime, qu'on va parfois moins trouver dans les archives écrites. Donc effectivement, alors est-ce que c'est une interprétation purement poétique, est-ce que c'est basé sur des faits réels, là c'est difficile, hein, de donner une réponse catégorique, mais effectivement on va avoir ce type d'éléments.
Alors je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais parmi les archives que vous m'avez suggérées, l'un et l'autre, l'essentiel était des chants interprétés par des femmes. Et je me demandais si c'était une coïncidence ou si le répertoire de la Guerz était un répertoire qui était plus largement transmis aux femmes et par les femmes. Eva Guerel.
On a des chanteurs hommes et des chanteurs femmes. On a les deux. Je m'étais intéressée à cette question parce qu'on dit souvent, à la fois en Bretagne et puis dans d'autres régions, hein, que ces chansons dans d'autres régions, dans d'autres pays même, hein, que ce sont des chansons de femmes. Je pense qu'il faut nuancer cela. Il y a aussi l'influence des collecteurs, c'est-à-dire qui a recueilli ces chansons, dans quelle intention et auprès de qui. Et lorsqu'on regarde au XIXe siècle, par exemple, les grands collecteurs qui sont allés dans les campagnes recueillir ces chansons, certains ont plus recueilli auprès d'hommes, et quand même, la plupart ont recueilli plus auprès de femmes. Si on regarde par exemple une grande collecte qui est celle de François-Marie Luzel, vraiment un collecteur de référence, je crois que c'est 2/3 de femmes pour 1/3 d'hommes. Après, on a aussi certains répertoires qui racontent des histoires qui sont plus souvent recueillies auprès de femmes. Par exemple, les chansons d'infanticide. Hein, si on regarde les différentes versions que l'on connaît, quand je parle de différentes versions de Guerz, on connaît des milliers de versions différentes, hein, de Guerziou. Hein, ce sont de gros répertoires. Eh bien, on se rend compte sur ces chansons d'infanticide, par exemple, que c'est plus souvent des femmes qui les chantent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes.
On en écoute une encore.
Il n'aime l'ois ma mignon, l'ois et d'heureux ouelec. Adai tuigen, n'aime d'er pardon, sans fille et gueule faouette. Nade sans fille et gueule faouette, que nomme une nainchette. Dissu l'ouin pet, tobir me fasse, baribolant gounette. Dissu l'ouin pet, obir me fasse, baribolan gounet. Ama ouillet, me brebelec, sur yvain scandelet. Ama ouillet, me brebelec, sur yvain scandelet. Ama ouillet, me zame mam, sur yvain main pilet.
Qu'est-ce qu'on entend, Eva Guerel?
On entend la Guerre de Loïs Ravalek, chantée par Louise Valli de Melran, donc dans l'actuel département du Morbihan. Ça a été enregistré en 1980 par Loïser Brass, qui est à la fois collecteur et chanteur. C'est une complainte qui rejoint tout à fait ce que disait Dénès Prigent tout à l'heure sur la fonction mémorielle de la Guerre. C'est une chanson qui raconte une histoire de crime qui s'est déroulée en 1732 au Fawet, dans le village du Fawet. Et on peut le dire de façon aussi précise parce que cette chanson a pu être mise en relation par Donatien Laurent, une fois encore, avec un procès qui a duré pendant 4 ans. Donc on a plusieurs centaines de pages de ce procès autour de ce fait divers, donc un jeune homme que l'on retrouve noyé dans la rivière. Ce qui est exceptionnel et remarquable dans l'étude qui a été faite par Donatien Laurent, c'est qu'il montre que le procès écrit est rempli de dysfonctionnements qui ont pour but de disculper les coupables, lesquels coupables font partie de familles qui sont proches des familles des juges. Par contre, dans les guardiaux qui ont pu être recueillis dans les années, alors l'enquête de Donatien Laurent c'est dans les années 1960, eh bien, ces chansons ont gardé de façon beaucoup plus nette des informations sur les coupables réels. Et autour de ces chansons, il y a aussi toute une série de commentaires, de choses sur les lieux, sur la maison où s'est passé ceci ou cela. Et c'était quelque chose d'extrêmement vivant en 1960. Ce que l'on peut tirer comme réflexion de cette étude, c'est que finalement, dans ce cas très précis, la source orale, la chanson transmise de génération en génération, a plus fidèlement gardé le souvenir du fait divers historique, de la réalité historique, que la source écrite. C'est quelque chose d'assez perturbant pour des historiens qui ont l'habitude de dire que voilà, ce qui est écrit est plus fiable que ce qui est oral. Les écrits restent, les paroles s'envolent, on connaît le proverbe. Et bien là, finalement, on a la démonstration inverse.
Ça veut dire, ou ça voudrait dire qu'il y a encore des résistances à ce travail-là comme historienne, parce que après tout, celui auquel vous vous référez, si les travaux datent de 1960, j'imagine que les résistances... ont vécu.
Oui, il y a toujours des résistances parce que ça reste un matériau d'étude inhabituel et ce sont des chansons qui ont été donc recueillies à partir du 19e siècle, encore au 20e siècle, mais qui se rapportent à des événements qui se sont déroulés plusieurs siècles avant. Et donc il y a toute une durée assez longue pendant laquelle la transmission s'est faite oralement. Et donc les résistances des historiens, c'est de dire mais finalement comment... Est-ce possible que l'on puisse conserver dans les mémoires orales, sans support de l'écrit, des faits aussi anciens ?
Dénès Prigent, Eva Guerel, merci beaucoup à tous les deux. C'est presque la fin de cette émission que je vous laisse terminer entre vous et sans moi. Alors, excellente après-midi à vous, à toutes et à tous.
Merci.
Nous avons d'Adestiva Moïse, nous qui costumes d'Agona de Germintin, moi c'est... Très lent, à même ce paquet de frites, n'est-ce que peso. Très lent, Olène, à Garfawet, et à Marasson de terre, à Vescavet, à Gantadra, Sian en vet. La reine neus d'ar fawedis, la qui de no feren bemis, e no feren e no Mais au clan, t'as migré, bon.
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, Guillaume Ledu pour la technique à Paris, Benoît Mirvan à France Bleu Normandie à Caen
et à Thomas Jost et François Connac pour la réalisation. Merci à Denès Prigent et Eva Guyorel. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités du jour sur le site de l'émission, à podcaster, réécouter ou partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Olivier Lascar.